Bonjour et bienvenue au podcast de Politico en langue française. Pour la première fois, nous avons un invité. Pierre Briançon n'est pas de la partie, mais je suis avec Emmanuel Morel, député européen du Parti Socialiste, que nous retrouvons dans une conférence sur le libre-échange et sur les accords d'échange avec les États-Unis. Mais dans un premier temps, je voulais revenir avec vous sur une affaire qui a secoué le petit monde du Parlement européen, la visite du Premier ministre. Dans sa rencontre avec les députés socialistes, il paraît que l'ambiance était houleuse. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais c'est pas ça. Le matin, on a pris un petit déjeuner avec le Premier ministre. Nous, les socialistes français, ça s'est très bien passé. On a fait la liste de tous les problèmes auxquels l'Europe était confrontée, ils sont nombreux, c'était plutôt pas mal. Après, Manuel Valls a fait un certain nombre de visites, Conseil de l'Europe, il a rencontré le président du Parlement, le président de la Commission. Le soir, on a eu une réunion du groupe social-démocrate, donc qui réunit tous les partis socialistes et sociaux-démocrates d'Europe. Et c'est vrai qu'à la fin de son intervention, il a fait référence à la situation française de façon un petit peu véhémente, alors que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, voilà. Donc, c'est derrière nous, c'est pas grave.
Mais il y a une lettre qui lui a été adressée, quand même.
Par Pérange Berès, la chef de la délégation, qui s'étonnait, qui s'étonnait du ton qu'il avait employé, et surtout du fait de parler de politique intérieure, alors même qu'on était là sur des grands sujets européens, c'est-à-dire le Brexit, les traités de libre-échange, la crise de la zone euro, la crise des réfugiés, il y avait de quoi faire. Bon, lui, il a jugé utile de parler de la situation française et des tensions qu'il pouvait y avoir au sein du Parti Socialiste. Moi, je pensais que c'était inopportun de le faire. Bon, voilà.
Est-ce qu'il y a assez de contact entre Manuel Valls et le Parlement européen? Est-ce que les Paris s'intéressent suffisamment à ce qui se passe à Strasbourg et à Bruxelles?
Non. Mais de toute façon, tout le monde le sait, donc c'est un secret pour personne. Moi, je suis stupéfait, d'ailleurs, depuis que je suis élu parlementaire européen. Ça fait 2 ans à peine. De voir qu'en réalité, les questions européennes intéressent assez peu les dirigeants français, mais pas seulement les dirigeants, parce qu'on pourrait parler aussi des médias. La vérité, c'est que moi, quand je vois beaucoup de journalistes, mais c'est essentiellement pour parler de la situation au sein du Parti Socialiste, ou pour les questions nationales. Ils discutent des choses très importantes en Europe. Il y a peu de correspondants permanents, des grands journaux, des grandes chaînes de télé. Et clairement, les sujets européens ne sont pas prioritaires pour les rédactions, et pas plus pour les hommes politiques d'envergure nationale. C'est un vrai souci parce que, encore une fois, on parle de l'avenir de 500 millions de personnes et on en fait partie.
Ouais, cet épisode est symptomatique puisque, comme vous le dites, c'est la politique parisienne qui est venue faire irruption dans cette rencontre qui était des plus importantes, finalement. Aujourd'hui, on parle du TTIP. Je voulais vous demander comment vous jugiez l'attitude de la France sur l'accord transatlantique. Le président de la République a eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Est-ce que vous trouvez que l'Élysée est claire là-dessus? Est-ce qu'on est pour ou contre cet accord? Et est-ce qu'on ne gagnerait pas à clairement dire ce qu'on pense?
Alors, mais pour dire ce qu'on pense, autant faut-il savoir ce qu'on pense. La difficulté aujourd'hui, c'est que François Hollande était très allant sur le TTIP il y a quelques mois. Je me souviens même d'une déclaration très enthousiaste il y a de ça un an. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on l'est moins. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, Matthias Fekl, multiplie les interventions pour expliquer qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, que certes, il y a des opportunités, mais il y a aussi des risques. Mais c'est tant mieux, finalement, parce que moi, ça fait des mois, des années même, que je demande au gouvernement français, un, d'avoir une position claire, et deux, de marquer des formes de réticence par rapport à des méga-accords commerciaux dont on nous promet monts et merveilles pour l'avenir, mais qui, en réalité, recèlent beaucoup de risques pour nos industries et pour nos salariés. Et de toute façon, je vais vous dire, les négociations sont en train de bloquer. Pourquoi? Parce que les Américains veulent rien lâcher sur les marchés publics, et ils ne veulent pas entendre parler de nos indications géographiques, alors que nous, Français, on est très attachés aux AOP, aux AOC, les appellations d'origine contrôlée. Là, je parle dans le domaine agricole. Ouais. Et puis sur les services financiers, on n'a pas avancé d'un iota. Donc en réalité, il y a des négociations. Elles sont finalement laborieuses. Et moi, j'ai le sentiment que tout le monde se rend compte, en tout cas en France, que pour l'instant, on est loin d'être gagnant. Donc, si j'avais un conseil à donner au président de la République, enfin, je m'en garderais bien, puis de toute façon, il ne les écoute pas beaucoup, ça serait sur cette question d'être un peu plus clair et de dire que dans le contexte actuel, qui est en plus un contexte de défiance généralisée par rapport à des accords de libre-échange qui sont quand même négociés dans une certaine forme d'opacité, on gagnerait à renverser la table, quoi.
À retirer le mandat, c'est possible ?
Il ne s'agit pas de retirer le mandat, il s'agit de dire, du point de vue de la France, que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour un bon accord et qu'il est temps de faire à tout le moins une pause.
Alors on est au MEDEF, on entendait des pronostics très optimistes, en tout cas pour un accord l'année prochaine, peut-être en 2017. Vous pensez qu'il y a la possibilité carrément que cet accord ne soit pas complété et que n'existe pas en fin de compte?
Ah oui, moi je pense que le principal risque, c'est un accord au rabais. C'est-à-dire qu'on se presserait tellement, parce qu'on a peur du prochain successeur de Barack Obama, qu'on signerait quelque chose dans les semaines qui viennent, sauf que c'est très incomplet et que les principales revendications européennes et françaises ne sont pas satisfaites. Donc ça serait une catastrophe. Donc moi je pense que l'urgence, c'est d'attendre. Et l'urgence, c'est de prendre son temps. Est-ce qu'on va arriver à convaincre la Commission ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ma position.
Ouais. Et surtout que, en même temps qu'on est en train de négocier cet accord qui est déjà très controversé, il y a d'autres questions par rapport au commerce extérieur qui viennent sur la table. On parle de la Chine, de son statut d'économie de marché. On sait que là, c'est une question très controversée qui divise les pays européens. Et est-ce que vous pensez que c'est un sujet important qui mérite qu'on se préoccupe de cela et
C'est un sujet décisif. Ouais. Hein, il y a 15 ans, quand la Chine a adhéré à l'OMC, on lui a donné la garantie qu'elle puisse accéder à ce statut. Qu'est-ce que ça veut dire si la Chine accède au statut d'économie de marché ? Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir des mesures anti-dumping par rapport à ses produits. Le problème, c'est que la Chine ne respecte finalement aucun critère de l'économie de marché tel qu'on l'entend à l'OMC, et qu'en plus, elle a une politique commerciale ultra-agressive qui, si elle était encouragée à la fin de l'année, dévasterait l'industrie européenne. L'industrie métallurgique, il faut regarder le problème de l'acier, mais c'est vrai dans la céramique, c'est vrai dans la papeterie, c'est vrai dans toutes les branches, en tout cas la plupart des branches de l'industrie européenne. C'est un sujet qui, moi, me paraît décisif. On a lancé une grande campagne avec Édouard Martin, qui est un collègue député européen, sur cette question.
Et en même temps... Ancien ouvrier d'Arcelor, il me semble, rappeler à ceux qui nous écoutent, qui est maintenant député au Parlement européen.
Exactement, qui fait un travail formidable sur la question. Le problème, je vais vous dire, et ça, c'est... Moi, ça me stupéfie, c'est que les Européens ont tellement peur des mesures de rétorsion qu'aucun État membre n'ose dire ce qu'on se dit tous en privé, c'est-à-dire si la Chine accède au statut d'économie de marché, c'est une catastrophe. Bah, à un moment, il va falloir parler d'une seule voix et d'avoir le courage, par exemple, d'autres continents. Les Américains, ils se protègent. Les Indiens, ils se protègent. Il n'y a pas de raison que nous, les Européens, on ne se protège pas.
Et d'ailleurs, on est divisé et pas tous les pays sont d'accord, puisque la Grande-Bretagne, là-dessus, est plutôt favorable à cet accord, alors que le continent, si on peut caricaturer, est plutôt...
Mais c'est caricatural, parce qu'il y a 8 pays encore aujourd'hui qui sont plutôt favorables à ça. Et en fait, il y a tout le débat sur la modernisation de nos instruments de défense commerciale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui que l'Europe se dote de solides instruments anti-dumping. Ouais. Voilà. Anti-dumping social, anti-dumping économique. Or là, il y a un débat. Pourquoi la Grande-Bretagne, mais c'est le cas des Pays-Bas par exemple, traditionnellement, ils sont très libre-échangistes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils croient que le libre-échange n'a pas besoin de règles, n'a pas besoin de régulation. Bah, ce n'est pas la position française, et c'est encore moins la position des socialistes, qui pensent qu'au contraire, il faut mettre de la régulation et de la norme partout où on peut pour parvenir au juste échange.
Ce que j'entends dans mes conversations avec... des gens dans le gouvernement français, c'est que c'est quand même la Grande-Bretagne qui est la plus agressive sur ce dossier-là.
Oui, c'est vrai.
Et ce qu'on dit, c'est que d'une certaine manière, le Brexit est déjà consommé, c'est-à-dire qu'ils sont isolés en quelque sorte. La Grande-Bretagne agit dans ses propres intérêts et non pas de concert avec le bloc européen, est-ce encore un sujet de division finalement entre le continent et la
Londres? Mais c'est pas lié à la question du Brexit, parce que ça a toujours été le cas. Hein, là, il y a une position singulière de la Grande-Bretagne et d'autres hein, sur la question du libre-échange. Après, que le Brexit soit déjà consommé, je ne le souhaite pas. Hein. Il y a clairement dans l'opinion publique anglaise aujourd'hui un débat. Moi, j'espère que la Grande-Bretagne restera dans l'Union. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crains que sinon, ça soit le signal à une sorte de lente dislocation et dilution de l'Union européenne. C'est ça que je crains. On est quand même dans une année catastrophique pour l'Europe. Il y a eu la crise de la zone euro, avec le scandale du sort réservé aux Grecs. Il y a eu la crise des réfugiés. Il y a en Europe orientale un certain nombre de démocraties qui sombrent dans ce qu'on pourrait appeler la démocrature. Regardez la Hongrie, ce qui se passe, c'est ahurissant. Ou même la Pologne récemment. Hein. Donc l'Europe est vraiment en crise sur tous les fronts. Et si en plus on rajoute à ça le Brexit, c'est-à-dire le départ quand même d'un grand pays de l'Union européenne, je crains que l'Union européenne ait du mal à résister à de tels chocs politiques. Ouais. Alors vous allez me dire, ça peut être aussi une formidable opportunité pour rebondir.
C'est ce que disent les Français.
Non, pas les Français, certains Français. oui, ça peut être. La crise, c'est toujours une opportunité, mais c'est aussi des risques. Et dans le contexte politique, vous avez des mouvements nationalistes et d'extrême droite qui poussent partout comme des champignons dans tous les pays européens, même en Allemagne. Je ne suis pas sûr qu'il faille prendre le risque.
L'effet de domino, est-ce que c'est un vrai risque par rapport au Brexit? Si ce grand pays sort, est-ce que ce n'est pas l'autorisation aux autres de faire un référendum, de les suivre?
Incontestablement, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un risque. Il y a un risque, et en tout cas, il y a surtout un risque que des pays commencent à dire, ah ben moi, si je n'ai pas telle ou telle dérogation en matière sociale, en matière fiscale, bah je fais comme les Anglais. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans une Europe sans queue ni tête et sans projet politique. Or, c'est bien ce qui manque aujourd'hui.
Oui, bah c'est le risque au chantage, effectivement. Une dernière question. Vous êtes spécialisé à l'Assemblée dans les affaires d'impôts, de taxes. Vous êtes siégé à la Commission. On a vu le grand dossier, les Panama Papers qui ont agité. Et pourtant, on a vu que le groupe Front National a voté contre l'enquête, contre une enquête parlementaire dans l'affaire des Panama Papers. Comment vous interprétez cela et qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion, nous, les journalistes?
Est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne vous étonne pas, compte tenu des révélations qui ont été faites par les différents journaux sur Panama Papers. Mais ce qui est important quand même, parce que j'aimerais bien qu'on revienne à la dernière session à Strasbourg. Un, on a voté le principe du reporting pays par pays public, c'est-à-dire la traçabilité des profits pour toutes les multinationales. Ça, c'est une avancée considérable. On n'en parle pas assez, mais enfin, c'est quand même quelque chose. Et là, pour le coup, Moscovici a vraiment bien joué le jeu, la Commission, avec le Parlement. Deuxième chose, ce qui paraissait encore inimaginable il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'idée d'avoir une vraie commission d'enquête du Parlement européen sur ces questions, eh ben, ça a été adopté. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie commission d'enquête sur Panama Papers. Je peux vous dire que ça en vaut la peine parce que c'est devenu un impératif pour nous, Européens. On ne peut pas dire à la fois on a des règles budgétaires communes, on a des règles monétaires communes, mais par contre, sur les questions fiscales et sociales, on se fait la guerre, c'est la compétition à mort. Si c'est ça, de toute façon, l'Europe disparaîtra purement et simplement. Si on veut redonner confiance dans l'Europe, si on veut redonner envie aux Européens de regarder un peu ce qu'on fait, il faut l'harmonisation fiscale et ça passe précisément par ce type de mesures.
Très bien, on finit sur une note optimiste. Merci beaucoup, Emmanuel Morel. C'était le dernier podcast de Politico. N'hésitez pas à réagir, à commenter sur Twitter ou bien directement dans ma boîte mail. Et à la semaine prochaine.